Voilà, bonjour à tous, je suis content de venir parmi vous. Je vous transmets les salutations de l'église de Mirecourt qui effectivement est en train de bénir le Seigneur, en tout cas je l'espère. Voilà. Et j'aimerais partager avec vous un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et donc si vous voulez bien, on ira ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 25 à 35. Voici ce que nous raconte Luc, l'évangéliste. Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était d'usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Vous savez que, si vous lisez l'Évangile, c'est beaucoup une galerie de portraits, en fait. On voit apparaître, en relation avec Jésus, toutes sortes de gens. Il y a des gens, on va dire, de la haute, hein, des rois et des reines. Mais surtout, il y a des gens ordinaires comme nous, des croyants de base, on va dire. Et le fait qu'à un certain moment, ils ont été mis en présence de Christ, a mis sur eux un genre de coup de projecteur qui les a en quelque sorte immortalisés. C'est-à-dire que c'est des gens qui auraient pu être dans un anonymat complet, comme ce Siméon, mais à cause de ce contact avec l'enfant Jésus, eh bien, il a pris place dans les écrits évangéliques et nous pouvons lire son histoire encore aujourd'hui. Donc Siméon, ce qu'on pourrait appeler un Israélite de base, mais c'est quelqu'un auquel on peut s'identifier. Et c'est pour ça que je voudrais vous proposer aujourd'hui de méditer un tout petit peu sur son exemple. Il y a deux choses qui ressortent dans cette histoire à propos de Siméon. La première, c'est qu'il s'agit d'un homme de l'attente. Siméon est quelqu'un qui a su attendre. Et puis Siméon également, c'est un homme de foi. Et la combinaison de ces deux choses, parce que je vous fais remarquer, il y a des tas de gens qui attendent hein, dans la vie, il y a des gens qui attendent le bus pour aller au boulot, bon, ça ne fait pas d'eux un exemple, mais c'est l'attente dans la foi. Et donc c'est la combinaison de ces deux choses, l'homme de l'attente et l'homme de foi, qui fait de lui un modèle à imiter. Alors j'aimerais qu'on reprenne un peu ce passage sous l'angle de l'homme de l'attente. Il nous est dit à propos de cet homme qu'il était juste et pieux, mais qu'il attendait la consolation d'Israël. Donc dans son portrait tout de suite, il y a ça qui ressort. Il attendait. Et il s'agit là de l'attente d'une vie entière, parce qu'il dit clairement, en prenant l'enfant Jésus dans ses bras, ben, « Maintenant je peux mourir. » Quelque part, voilà, j'ai vu le salut de Dieu, plus rien à faire sur terre. Ce n'était pas un jeune homme. Il avait attendu la vie entière et il est exaucé quelque part sur la fin de sa vie. C'est une attente disciplinée. Il nous dit de lui qu'il était juste et pieux. Je vous disais il y a une minute, il y a un tas de gens dans la vie qui attendent. Mais qui attendent dans toutes sortes de révoltes, dans toutes sortes d'impatience, dans toutes sortes de distractions. Lui, ce Siméon, sur le plan spirituel, c'était quelqu'un, on va dire, de cadré. Il était juste et pieux. Il y a un bulletin d'une dénomination évangélique quelconque qui s'appelle « Servir en attendant ». Je ne sais pas de quelle dénomination il s'agit, mais bon, c'est une revue franco-française évangélique « Servir en attendant ». C'était ça un peu Siméon. Il servait en attendant. Et ce que j'aimerais faire remarquer aussi, c'est qu'il s'agit d'une attente décentrée. Il attendait quoi? Il n'attendait pas de gagner au loto pour sa pomme, si vous voulez excuser la familiarité, où il n'attendait pas le prochain week-end pour enfin se reposer, mais il attendait la consolation d'Israël. C'était plus grand que sa petite vie à lui, que ses projets personnels, que son agenda. Il attendait le Messie. Et ça aussi, ça nous est proposé un exemple, parce que je crois qu'on attend tous certaines choses. Hein. Si vous êtes réveillé ce matin avec une horrible sciatique, eh bien, vous attendez que ça finisse. Hein. Vous êtes certainement impatient. Hein. Il y a des tas de choses comme ça qu'on peut attendre très légitimement. Mais je crois qu'il y a... Le Seigneur nous propose des choses qui vont au-delà de ma consolation personnelle, de ma satisfaction personnelle, de ma gratification personnelle. Siméon savait attendre quelque chose de grand. Et je vous fais remarquer d'ailleurs, si vous lisez ce début de l'évangile de Jean, chapitre 1 et 2, vous verrez qu'il est marqué par ce thème de l'attente. Nous voyons dans ce passage que Siméon est quelqu'un qui attend, mais également les parents de Jean-Baptiste, ils ont attendu très longtemps avant d'avoir cette bénédiction, d'avoir un enfant. Le passage d'après, celui dont nous sommes en train de parler, vous avez Anne, la prophétesse. Pareil, c'est quelqu'un qui a attendu toute sa vie. Et donc, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que c'est pour ces trois personnes qu'on connaît, donc qui sont dans le texte, on va dire, qui sont rentrées dans le livre, à savoir les parents de Jean, Siméon et Anne, pour ces quatre-là, il y en a des milliers d'autres dans le peuple d'Israël, à cette époque-là, qui ont su attendre. Et dans l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, vous avez des milliers d'hommes et de femmes comme nous, on va dire des croyants de base, qui honorent Dieu au quotidien dans l'attente confiante, dans une attitude d'attente qui est précieuse aux yeux de Dieu, parce qu'elle est confiante et active. Et quand vous y réfléchissez d'un peu plus près, en fait, l'Église entière attend. L'Église entière attend. Un des derniers versets de la Bible, dans l'Apocalypse, Apocalypse 22, 20, « Viens, Seigneur Jésus. » L'Église attend. Donc Siméon attendait, et un deuxième point, c'est que c'était un homme de foi. Il nous est dit que, verset 26, il avait été divinement averti. Et pour ça, il faut la foi. Il faut être dans une certaine relation avec Dieu. Les gens qui ne sont pas dans une relation de confiance à Dieu, qui ne sont pas dans l'écoute à Dieu, ils sont avertis de rien du tout, quoi. Ils ouvrent le journal le matin pour voir qu'il y avait un attentat de plus ou une catastrophe aérienne de plus et que le chômage a un peu baissé, c'est bien, mais ils ne sont pas divinement avertis de choses éternelles. Siméon, lui, était un homme de foi. Et quand je lis son histoire, personnellement, j'ai envie d'être comme ça. Et il nous a dit au verset 27 qu'il vint au temple poussé par l'Esprit. Autrement dit, il a été au bon endroit et au bon moment. Et là, j'aimerais que vous fassiez un peu un film. Vous savez, il faut essayer de visualiser un peu les scènes. Quand vous lisez les passages, bon, on peut être aidé par toutes sortes de bons films maintenant qui montrent la vie de Jésus. Essayez de se rappeler un peu, ça ressemblait à quoi, les lieux, les... Bon. Et quand on dit, voilà, il vient au temple poussé par le Saint-Esprit, ça semble parfaitement évident, quoi. Il rencontre le Seigneur Jésus au temple, voilà, quoi. Mais essayez de visualiser, et vous verrez que c'était vraiment une aiguille dans une botte de foin. Parce que le temple de Jérusalem, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de géant. Il faut savoir que Jérusalem était une très grande ville, hein. C'était une des grandes villes de l'Orient, hein. 120 000 habitants en temps normal, et en période de pèlerinage, ça montait à 400 000. Et au cœur de cette ville, vous aviez le temple, qui était un édifice gigantesque, qui était visité heure par heure par des centaines et des milliers de personnes. Il y avait d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas souvent, un véritable tourisme. Et donc, si vous voulez un peu vous imaginer ce que c'est pour Simon de retrouver l'enfant Jésus dans le temple, essayez de vous imaginer que vous montez à Cora, à Nancy, ou à Carrefour, à Épinal, vous voyez ce genre de grand centre commercial, quelque part, un 23 décembre avant les achats de Noël. Il y a du monde partout. Ça rentre, ça sort, ça discute, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a toutes sortes de distractions. C'est impossible de trouver des gens là-dedans. Et puis, qui sinon cherche-t-il ? C'est pas le roi et la reine. C'est pas des gens qu'on repère tout de suite parce qu'ils sont couverts d'argent et d'or, avec des gardes du corps, des trompettes qui sonnent. C'est un homme et une femme, probablement tout à fait jeunes, mari de avoir quoi, 16, 18 ans. Bon, il est le type physique, juive, normale, quoi, brune, les yeux noirs. Joseph prend le même genre, porte un enfant dans leurs bras. Des gens comme ça, mais il y en a des centaines, ou en tout cas des dizaines. Et donc, pour qu'il y ait une telle précision qu'il les rencontre et qu'il les reconnaisse, eh bien, ça suppose une communion vraiment très étroite avec le Saint-Esprit. C'est vraiment une performance. De nos jours, on est le portal, on dit, t'es où là ? Ben, regarde autour de toi, bon, tu vois le pilier, machin, là, voilà, bon. C'est pas ça dont on parle, d'accord ? C'est quelque chose qui est véritablement miraculeux. Donc, voilà un homme guidé. Personnellement, j'aimerais bien être guidé comme ça, avec ce coefficient de finesse, d'exactitude. Et puis, c'est pas beaucoup de dire, oh, je suis guidé, c'est que s'il y a une efficacité derrière. Et puis, donc, il nous est dit qu'il les rencontre, il prend l'enfant Jésus dans ses bras, donc le couple Marie-Joseph a dû être assez surpris, il y a un gars qui débarque comme ça, tout à fait normal, tenez, donnez-moi votre enfant. Et il nous est dit, donc, au verset 30, qu'il prit l'enfant et il dit, merci Seigneur, tu peux me laisser partir maintenant, je suis prêt à mourir parce que mes yeux ont vu ton salut. Et là, autant je suis émerveillé de voir comment Simon a pu rencontrer Marie et Joseph dans le contexte dont je viens de vous parler, autant je le suis encore deux fois plus qu'il arrive à voir qu'il s'agit là du sauveur du monde. Imaginez un petit bébé, donc comme ça, mais un bébé, quoi, en train de dormir plus ou moins, emmailloté comme ils étaient beaucoup. Hein. On ne devait pas y voir grand-chose, hein, l'enfant Jésus, à part peut-être le bout du nez. En tout cas, un bébé normal, quoi. C'est ça le sauveur du monde. C'est ça celui qui va libérer l'humanité entière du péché, qui va briser la puissance du diable. Il faut avoir une foi gigantesque pour croire à ça. Toutes les apparences sont contre. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit bébé, fils du charpentier, le gars qui est monté de Nazareth. Bon. Et vous voyez, moi j'admire cette puissance de la foi qui est capable de voir la réalité éternelle au-delà des humbles apparences. Et souvent, nous méconnaissons l'action de Dieu dans nos vies. Souvent, il se passe des choses dans nos vies, des rencontres notamment. On ne voit pas que c'est le Dieu de l'éternité qui est en train de faire quelque chose. On passe à côté. On explique ça souvent, combien nous emballons ce qui nous arrive d'éternel dans des considérations complètement horizontales. Vous voyez ce que je veux dire ? On méconnaît l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et donc, lui, il reconnaît. Voilà le sauveur du monde. Et il est tellement dans la joie qu'il dit, maintenant, ayant vécu ça, j'ai plus qu'à mourir, quoi. J'ai rien à faire sur terre. C'est jackpot, quelque part. D'accord ? Et puis, il se met à prophétiser. Il parle. Il annonce. Et il montre, là, dans les quelques phrases qu'il prononce, un pouvoir de pénétration qui est extraordinaire aussi, il montre une connaissance de Jésus. Souvent, nous avons des chrétiens qui connaissent très peu Jésus. Et souvent, on peut nous-mêmes se dire, et parler au Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que je te connais peu, quoi. 30 ans de conversion et de marche chrétienne, ça n'a pas amené une connaissance immense de toi. Et donc, il prophétise. Et il est capable de dire à propos de cet enfant, voilà un enfant, vous voyez, un petit bébé, tout mignon. Bon. Il va être en but à la contradiction. Il va être en but à la contradiction. Quand il parlera, vous aurez des gens qui seront là en train de boire ses paroles et de dire ça, c'est vraiment la vérité. Et d'autres qui seront en train de grincer les dents en disant mais cet homme, il a un démon, il est fou, il faut le faire taire, il est dangereux, il va amener le peuple à la catastrophe. Simon est capable de voir ça. Et donc, il le présente comme une personne qui va présenter la division. Vous savez, on est à une époque où hein, faut, nous, les gens religieux, entre guillemets, on fait appel à nous pour faire du bisounours. Hein. Les autorités municipales, la préfecture, tout ça, ils veulent qu'on fasse de l'interreligieux, qu'on contribue, et je le comprends, hein. Je serai à leur place, je le ferai pareil. Hein. Je dis voilà, il faut contribuer à faire baisser les tensions intercommunautaires, etc. Bon, il faut faire du consensuel. Et Jésus n'annonce pas, Siméon n'annonce pas ça du tout. Il dit cet homme va provoquer la division, et en particulier la division dans sa propre famille. Sa mère ne sera pas épargnée. Une épée te transpercera, l'image est violente, hein. Une épée te transpercera l'âme. Si vous imaginez une minute, hein. Vous êtes mère ou père, et puis vous prenez une épée en plein cœur, et le choc que ça vous produit, la violence, c'est ça que produit Jésus. Et c'est ça qu'annonce Siméon. Et il conclut en disant, afin que le cœur de beaucoup de gens soit révélé. C'est-à-dire, Jésus ne divise pas pour diviser. Jésus n'est pas arrivé pour semer la zizanie, mais Jésus dit lui-même, je suis venu apporter l'épée. À cause de moi, il y en a qui diront blanc, il y en a qui diront noir. Et avant que j'arrive, les gens pouvaient être dans un certain état assez indéterminé. Hein. C'est pas écrit sur sa tête qui ira finalement auprès de Dieu dans l'éternité ou qui en sera séparé. C'est pas écrit qui aime la vérité et qui finalement s'en détournera. Mais quand Jésus arrive, par sa prédication, il suscite cette division qui fait qu'à la fin, vous voyez très bien qui l'a choisi et qui l'a renié, qui veut le suivre et qui n'est pas intéressé par le suivre, au-delà des discours des uns des autres qui peuvent être très religieux. Et alors, je m'interroge et je me dis, comment Siméon a-t-il pu acquérir une telle connaissance? Donc c'est miraculeux qu'il reconnaisse l'enfant Jésus. Et il y a quand même un poids derrière, c'est pas simplement, si vous voulez, que pof, le Saint-Esprit y a parlé, c'est qu'en prenant l'enfant Jésus dans ses bras, tout ce qu'il dit, on voit qu'il y a vraiment un poids de connaissance. Alors je me dis, certainement, Siméon avait étudié la parole de Dieu. Il avait lu les prophètes d'Israël. Il avait lu les prophéties messianiques, en particulier Ésaïe 53. Donc, contrairement à la plupart des gens de son époque qui imaginaient que le Messie il allait un jour arriver comme ça, naître dans une famille, et puis à l'âge de 18 ans, il allait brandir l'étendard de la révolte, et vous voyez, bon, cette vision messianique de celui qui va nous libérer des Romains, etc. Bon, lui, Siméon, il était allé un peu plus en profondeur, et il avait lu, à la lecture des prophètes, qu'on aurait un Messie méprisé, rejeté, en but à la contradiction. Donc je pense qu'il y avait ça. Et évidemment, nous sommes appelés à imiter Siméon dans une lecture sérieuse et profonde de l'Écriture qui nous présente Jésus tel qu'il est, tel qu'il a été, et non pas tel que les modes théologiques, philosophiques, sociétales nous le présentent. Et je pense qu'au-delà d'une connaissance réelle de la parole qu'il devait avoir, et ça me ramène à ce qu'il nous est dit que, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Je pense que Siméon était vraiment associé à Jésus par l'Esprit de Christ. Il avait en lui l'Esprit de Christ. Alors je ne sais pas quelle vie il avait menée, mais j'imagine qu'il n'avait pas eu une vie facile, parce que c'est en partageant les souffrances de Christ, et en particulier les souffrances de l'attente, qu'on devient apte à le reconnaître dans les circonstances de notre vie. On connaît Jésus, on sait qui il est, parce que quelque part, on vit comme lui, on s'identifie à lui, on marche en tant que disciple à sa suite, et il y a un moment où ben, vous avez des oreilles spirituelles ou des antennes spirituelles. Dans certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes, vous êtes capable de discerner l'action de Dieu, vous êtes capable de voir à qui vous avez affaire, parce que vous vivez, vous êtes en communion à Christ, dans les souffrances de Christ, et donc en particulier celle de l'attente. Je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne, mais honnêtement, moi je trouve ça long. Il y a des moments où c'est long. Il y a tellement de choses qui prennent un temps infini. Notre propre sanctification, déjà, combien d'années il faut pour sortir de certains mécanismes. Hein. Et puis voilà, les évolutions de l'Église, on aimerait tellement que ça bouge davantage, on aimerait tellement que des promesses de Dieu s'actualisent plus rapidement dans nos vies. Et c'est une souffrance en soi. Jésus a attendu. Je pense très souvent à ça, vous savez. C'était quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire à tout point de vue, mais même au niveau humain. Je pense qu'au simple niveau psychologique, il a dû avoir une maturité, mais exceptionnelle. Je suis sûr qu'à 4-5 ans, il avait compris des trucs qu'on met des années et des années à comprendre. À ce qu'on appelle l'âge de raison, il savait qui il était. À 12 ans, il avait tellement compris l'écriture qu'il en remontrait à des docteurs de la loi. Et il a attendu. Il commence son ministère à 30 ans, à compter entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans. À faire quoi ? Ben, à raboter, à fabriquer des escabeaux avec son père, dans Nazareth, qui était vraiment un coin pas forcément marrant à vivre. Il ne se passait pas grand-chose à Nazareth. Il n'y avait rien d'excitant. Tout à fait l'endroit, le genre d'endroit qu'on a envie de quitter quand on est jeune. Et il a attendu. Ça me parle beaucoup, ça. Jésus a attendu, et tous ceux qui veulent marcher avec Jésus, dans les pas de Jésus, ressembler à Jésus, doivent apprendre à attendre avec foi. C'était vrai à l'époque de Siméon, et c'est vrai à notre époque. Alors, j'aimerais rajouter deux exhortations. La première, c'est justement, puisqu'il faut attendre, si nous avons compris ça, attendre avec foi, c'est gérer l'attente. Parce que c'est facile de dire « ouais, il faut attendre », mais c'est beaucoup plus difficile de le faire correctement. Gérer l'attente. Alors, ça peut se jouer à deux niveaux. Déjà, à un niveau personnel, matériel, nous attendons tous des choses. Si vous avez une sciatique, vous attendez que ça passe, vous êtes motivé pour que ça s'arrête. Si vous êtes chômeur, vous êtes motivé pour retrouver du travail le plus vite possible, et le chômage, vous le trouvez long. Et chacun de nous, comme ça, vit des choses à un niveau personnel, matériel, terrestre, dans lequel nous sommes dans l'attente. Et c'est légitime. Et puis il y a un niveau qui est peut-être un peu différent, autre, spirituel, peut-être plus collectif. Nous attendons peut-être un réveil dans notre région, dans notre pays. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons des déblocages spirituels. Et là, ce n'est pas simplement notre petite vie personnelle dont il s'agit, c'est des choses beaucoup plus grandes, à l'échelon d'une région, d'un pays, du monde. Et alors, comme c'est difficile d'attendre et qu'on n'aime pas, il y a des tentations. Personnellement, en tant que pasteur, je ne vais pas tout réduire à ça, mais je dirais que beaucoup des problèmes que j'ai vus chez les frères et les sœurs que j'ai accompagnés étaient liés au fait qu'à un moment, ils ont cherché le raccourci. Il y a marre d'attendre, il doit y avoir une solution plus facile, plus rapide, et voilà. Alors, il y a deux manières, il y a deux tentations, si vous voulez, principales vis-à-vis de l'attente. La première, c'est de se détourner, pardon, perdre la foi. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il me revient un petit souvenir que je vous partage. Un jour, j'étais à Paris. Je passais quelques jours à Paris et j'étais logé chez un couple de chrétiens très, très engagés, très dynamiques, qui étaient très motivés de prier pour les gens. Et ils me disent que tu accepterais de te rendre à un hôpital dans le quartier et d'aller prier pour un homme qui est paralysé, qu'on connaît bien. Il m'explique que c'est quelqu'un qui avait eu un accident quand il était jeune, il restait tétraplégique, et puis quelqu'un lui avait parlé de Dieu, il s'était fait baptiser, c'était dans des milieux pentecôtistes. Alors, il lui avait parlé de la guérison divine, il lui avait dit tu peux être délivré de ta paralysie. Et il avait cru à ça. Et le couple me raconte qu'il était tellement sûr que Dieu le bénirait que quand il s'est fait baptiser, je ne sais pas comment il s'y est pris, on l'avait mis, c'était dans une piscine, il s'est débrouillé pour se laisser tomber dans l'eau pour être baptisé plus vite. Oui. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé sa marche chrétienne, un an, deux ans, trois ans, etc. Puis, au moment où je suis allé le voir, moi, je ne sais pas combien de temps ça durait, peut-être 10, 15, 20 ans, mais il était toujours paralysé. Et cet homme était en train de perdre la foi. Et donc le couple m'a dit, va prier pour lui. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Je veux voir cet homme donc il était dans un hôpital militaire d'ailleurs. Et puis on voyait comment il était paralysé, il n'y avait que la tête qui bougeait, il y avait un genre de pipette pour, avec un ordinateur devant pour appuyer sur des touches, bon, on avait la télé, bon bref. Et puis j'essaie de. Bon, je me présente, je suis ami d'un tel. J'essaie de parler avec lui et je trouve que ça passait pas, quoi. Je sentais que, bon, d'abord c'est un peu difficile comme mission. Quelqu'un ne vous connaissait pas, bon. Enfin bref, j'ai essayé de parler, on s'est décidé d'exhorter des gens, hein, paralysés, alors que vous-même vous êtes valide, bien portant, tout, bon bref. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai prié pour lui, j'ai imposé les mains, que le Seigneur le bénisse, etc. Bon. Et puis j'ai dit, je reviendrai vous voir. Et à la fin de mon séjour à Paris, je suis revenu, et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai vu très clairement qu'il détournait la tête, et puis il s'est mis à faire semblant de dormir. Et là, j'ai compris clairement que ce n'était pas la peine, que je le secoue, que je lui parle, etc. Parce que clairement, il ne voulait pas me recevoir. Et donc, j'ai prié pour lui silencieusement. Et je me rappelle, je suis sorti, il y avait un jardin public à côté, je suis allé mettre sur un banc et j'étais en larmes. Et j'étais en larmes parce que, bon, après, ce qui s'est passé ensuite, j'en sais rien, mais clairement, d'après ce que j'avais pu voir, cet homme avait perdu la foi. Alors, est-ce que son attente était injustifiée d'être libéré de sa paralysie ou est-ce qu'elle ne l'était pas? Peu importe, moi je ne peux pas en juger, mais je peux juger de ce que j'ai ressenti et vu. Cet homme avait cessé d'attendre, et il était dans l'amertume et il avait perdu la foi. Je peux vous dire que des cas comme ça, j'en ai vu une paire, pas aussi dramatique si vous voulez, hein. Souvent ça joue sur des choses moins importantes, mais il y a cette tentation, peut-être pour chacun d'entre nous, de se détourner du plan de Dieu, d'oublier la promesse de Dieu en disant puisque ça ne vient pas, c'est trop long, eh bien j'y crois plus. Et une autre tentation, ça consiste à prendre les choses en main soi-même. Puisque Dieu ne fait rien, eh bien ça veut dire que c'est à moi d'agir. Puisque clairement, Dieu ne juge pas bon de lever le petit doigt pour accomplir ce qu'il m'a dit, ben, moi je sais quoi faire. Oui, c'est Abraham qui va se débrouiller pour avoir un enfant, voilà. Et que ce soit sur le mode du « je me détourne, j'y crois plus, je deviens cynique » ou sur le mode de « eh bien, je fais les choses par moi-même », on devient des vierges folles, on passe à côté. Et quand le Seigneur, effectivement, arrive, on est apte. Lui, il est là, parce que sa venue est certaine dans nos vies, mais nous, on n'y est plus, on est sortis du plan. Alors comment gérer l'attente, hein? Comment gérer l'attente? Eh bien, s'appuyer sur les promesses de Dieu, demander à Dieu qu'il les renouvelle. Je ne connais pas vos vies personnelles, peut-être que vous attendez de manière très précise certaines choses qui ne viennent pas. Et Dieu sait, parce que Dieu est le Dieu d'éternité, mais il sait très bien que nous, on est dans le temps. On ne vit pas 1000 ans et attendre des années, c'est pas pour nous qui sommes tellement limité, borné, ancré dans le temps, c'est pas facile. Et donc je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez une promesse de Dieu qui ne se réalise pas, demandez à Dieu de la renouveler. Si vous prenez l'exemple d'Abraham, Dieu promet à Abraham quelque chose d'incroyable. Certes, Abraham a fait un faux pas à un moment avec sa femme, ils ont monté, vous connaissez l'histoire, ils montent une opération qui s'est révélée désastreuse, hein. Mais par ailleurs, Dieu n'a pas hésité à intervenir plusieurs fois dans la vie d'Abraham pour lui rappeler sa promesse. Dieu a parlé à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, Abraham ». Donc, autant il serait mauvais, voire catastrophique pour vous de vous détourner de la promesse de Dieu en disant « J'y crois plus », autant il est légitime, ne voyant rien venir, de prier Dieu en disant « Seigneur, dans ta miséricorde, moi qui suis faible, fragile, inconstant, veuille me rappeler ta promesse. » Et parfois, Dieu le fait de manière miraculeuse, quoi. On voit vraiment que ce n'est pas un film qu'on s'est monté nous-mêmes. Donc déjà, gérer l'attente en s'appuyant sur les promesses de Dieu, quitte à demander à Dieu des confirmations. Deuxièmement, crucifier le vieil homme. L'incrédulité, l'impatience, la paresse, la dispersion. Parce qu'on a tellement tendance parce que quand l'attente n'est pas naturelle, eh bien on cherche des consolations. Alors on va se distraire, on court à droite, à gauche, on s'appuie sur l'homme, on vient s'appuyer sur Dieu. On est dans l'impatience. Tout ça, c'est le vieil homme, ça ne sert à rien. On ne fera pas venir les promesses de Dieu d'une minute à l'avance, en étant impatient dans notre prière, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» On ne tape pas du poing sur la table en disant « Seigneur, jusqu'à quand ?» Ça ne marche pas. Je dois apprendre à crucifier le vieil homme et à maîtriser mon impatience, voire même, pourquoi pas, ma révolte. Troisièmement, éclaircir la perspective de l'attente. Au verset 32, il dit bien « Voici, tu as préparé, mes yeux ont vu ton salut, mes yeux à moi, donc voilà, ma vie à moi, ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Et vous voyez, quelque part ici, Siméon, il fait un zoom arrière. C'est pas simplement de sa vie qu'il s'agit, ça y est, mon attente à moi, dans ma vie à moi, elle est récompensée. C'est qu'il parle dans la perspective d'un monde mondialisé, des nations, le salut pour les nations. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit simplement. Je ne me suis pas converti pour avoir une bonne vie à moi. Je me suis converti pour suivre un Seigneur qui est sauveur du monde. Et à ce moment-là, on vit quand même une époque qui est géniale de voir un peu les progrès de l'Église dans certaines régions du monde complètement improbable, bon, ça vaut le coup d'entendre ce genre de nouvelles. Et ça permet de gérer l'attente. Peut-être que dans ma vie, ça n'évolue pas assez vite comme je voudrais, mais il y a quand même des nouvelles extrêmement réjouissantes qui nous parviennent dans un monde où maintenant, ben, les nouvelles circulent facilement. Donc ça, c'était une exhortation, gérer l'attente. Et deuxième exhortation, être conduit en finesse. J'ai besoin d'être conduit. Pas dans les grandes lignes, à savoir à peu près ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne. Mais moi, personnellement, si je veux honorer Dieu, qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant? Je vous ai dit que j'admire cette capacité qu'a eu Siméon d'être guidé pour trouver un couple tellement banal dans un environnement aussi hostile, quelque part. Eh bien, je pense que des choses comme ça ne sont pas réservées à des gens qui ont vécu il y a 2000 ans. Et je pense qu'on peut avoir une vie conduite par le Saint-Esprit, à l'écoute des directives, qui fait qu'on peut rencontrer les bonnes personnes au bon moment, avoir la bonne parole, une parole de vie au bon moment, faire ce qu'il faut au bon moment. Et ça va au-delà de la lecture de la parole, des conseils du pasteur, je ne sais pas quoi, c'est très personnel. Donc une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est important. Et donc pour ça, il faut investir, hein. Si vous ne passez pas du temps dans la prière à écouter Dieu, vous ne pouvez pas être guidé. Ça, c'est pas en écoutant la télé que vous saurez, enfin, je ne suis pas contre la télé, je regarde moi-même, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une question d'investissement et de priorité. Également, pour être conduit en finesse, il faut s'approprier les promesses personnelles. Je vous disais il y a une minute, n'hésitez pas, si vous attendez des choses et qu'elles n'arrivent pas, à demander des confirmations au Seigneur, ou des affirmations. Je suis moi-même dans une position où très régulièrement je demande à Dieu, écoute Seigneur, dans la voie où je suis engagé, si vraiment imaginons, je me suis fait un film, je me suis trompé, etc., parle-moi, moi je suis prêt à évoluer, à changer, à aller ailleurs, faire autre chose, vous voyez, hein? Mais il y a des promesses personnelles que nous devons nous approprier. Nous avons, c'est une notion que les Américains emploient beaucoup, nous en France pas. Et je trouve que c'est regrettable. Il faut vraiment développer la notion de destinée. Chacun d'entre nous a une destinée. Dieu a prévu des choses pour nous. Il a un plan pour nous. Et ce plan, je dois me l'approprier. Moi seul peux le faire. C'est le mien. C'est ce que Dieu a prévu pour moi. C'est pas strictement le plan pour mon frère, ma soeur dans la même église. C'est très personnel. Je dois. Et donc, ce plan me sera révélé par Dieu, sous forme de promesse. Il me révélera à quoi je suis appelé. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Vous savez, un caillou blanc, un nom nouveau. Et donc, c'est adapté de manière unique à ma personnalité, à mon itinéraire, au traumatisme que j'ai vécu, qui me met en position de servir, aux choses que j'ai pu acquérir, conquérir, et qui me mettent dans une position de servir également. Les forces me permettront de servir, les faiblesses me permettront de servir. Tout ce que j'ai vécu me permet de servir. Je ne peux pas m'appuyer sur ce que j'ai vécu, et je dois constamment m'approprier davantage la promesse de Dieu faite sur ma vie. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Également, se proposer sans cesse à Christ comme instrument. Je ne peux pas être conduit en finesse si je n'ai pas le sentiment que je suis un instrument. Et donc, à partir du moment où je dis, ben, je me présente comme vase vide, comme instrument, serviteur inutile, le Seigneur, dans ta miséricorde, permet que je fasse des rencontres de miséricorde et de révélation. Je vous raconte un petit épisode, je me demande si je ne vous l'ai déjà pas raconté, mais je suis officier de réserve et chaque fois que je vais à l'armée, je prie au Seigneur, parce que ce n'est pas mon milieu habituel, c'est quelques jours par an, de faire des rencontres. Parce que c'est un milieu très ouvert, l'armée, et les gens parlent facilement et ils savent, vous avez cette très grande garantie que quand vous rencontrez quelqu'un, ça bouge tellement l'armée que vous ne le reverrez plus. Et donc les gens, souvent, vous disent en une heure ou deux de temps des choses qu'ils diront jamais à leurs voisins ou à leurs femmes. Parce qu'il y a une garantie dans mon humain. Donc voilà, je prie comme ça, que Dieu me dise, Dieu m'a utilisé assez souvent, et je me rappelle d'une année où j'avais passé une période à l'armée et j'avais parlé à personne, aucune occasion, rien s'était présenté. J'étais un peu déçu, parce que j'avais vraiment demandé à Dieu. Et donc j'ai quitté ma période là, donc je prends le train en gare de Strasbourg, et c'était il y a 20 ans en arrière. Il y avait encore des vieux trains à compartiments, vous savez. Donc il y avait un couloir et des compartiments. Et donc c'était le vendredi et je m'installe dans un compartiment, j'étais assez à l'avance, j'étais tout seul, le train était en gare, et je sors ma Bible pour préparer mon message du dimanche. Et donc là, j'avais commencé un peu à lire ma Bible, etc. Et tout d'un coup, une femme ouvre la porte du compartiment, vous savez, les portes qui coulissent, et vient s'asseoir en face de moi. Mais vraiment en face de moi, on avait presque les genoux qui se touchaient. Moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que le train était à moitié désert. Et dans notre culture, si vous voulez, une femme seule ne va pas se mettre devant un homme seul alors qu'elle pourrait se mettre ailleurs. Lui, c'est quoi ça? Et immédiatement, j'ai eu la réponse à mon questionnement, parce qu'elle ouvre la bouche et avec un fort accent espagnol, elle me dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que c'est bien le train pour Paris ?» J'ai dit « Oui madame », j'ai compris qu'en fait, elle voulait être rassurée, elle a besoin de renseignements. Quoi. Et elle rajoute « Oui, parce que je suis journaliste, je suis mexicaine, et mon journal m'a envoyé à Strasbourg pour couvrir un événement, et d'habitude je prends toujours l'avion, et hier, je ne sais pas pourquoi, mais une idée comme ça, j'ai annulé mon billet d'avion, j'ai essayé de prendre le train. » Et là, ting, là j'ai les antennes sont sorties. Et bon. Et donc j'ai prié le Seigneur, j'ai dit « Là, il y a un truc, Seigneur, on fait quoi maintenant ?» Et c'est venu la phrase d'après, parce qu'elle me dit « Et c'est quoi le livre que vous lisez là ?» J'ai expliqué. Et cette femme avait vraiment des besoins spirituels. Elle avait vraiment des besoins. Donc j'ai pu lui parler pendant le temps de réunion jusqu'à Nancy, ça a duré une heure et demie à peu près, parler un peu. Et j'ai pris son adresse et je lui ai fait envoyer une Bible dans sa langue, en espagnol. Puis je ne l'ai jamais revue, voilà. Mais pour vous dire, voilà. Et donc je suis rentré chez moi, j'étais tout content. Ça ne s'était pas passé pendant la période militaire, mais donc vous voyez, le Seigneur n'est pas limité par nos petites cases là. Mais voilà. Donc des choses comme ça, si vous proposez comme instrument, vous en vivrez. D'une manière ou d'une autre, hein, dans l'église, hors de l'église, peu importe. Hein. Et une dernière chose, je ne veux pas être trop long, mais à tant faire que de vous proposer comme instrument de Dieu, que vous utilisez en finesse, eh bien, soyez conduits pour être des instruments de bénédiction. C'était un peu le thème de ce culte, tel que Rachel nous l'a présenté, nous sommes appelés à bénir. Et je m'aperçois, en relisant ce passage, que Siméon prend Jésus dans ses bras et il bénit Dieu, verset 28, et ensuite il bénit Joseph et Marie, il bénit les hommes, verset 34. Il bénit Dieu, il bénit les hommes. Et si nous mettons en tête d'être des instruments de bénédiction, et ça aussi c'est l'appel d'Abraham, comme vous savez, devient une source de bénédiction. Si nous mettons en tête dans nos cultes de bénir Dieu de tout notre cœur, nous serons aussi une source de bénédiction pour notre entourage et nous bénirons les hommes. Et je crois que bénir Dieu, Dieu et bénir les hommes dans un monde qui maudit Dieu et maudit les hommes, combien de gens autour de nous sont dans l'amertume, ils en veulent à leur conjoint, ils en veulent à leur patron, ils en veulent à leur voisin. Et pareil, maudissent Dieu qui fait que Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être malade, pour avoir perdu mon boulot, vous voyez. Dans un monde comme ça, c'est très important pour nous d'être à contre-courant et de nous mettre dans le crâne. Je désire être un instrument de bénédiction. Seigneur, simplement conduis les circonstances pour que ça s'actualise dans la réalité. Conclusion, mon attente est celle de l'Église fidèle de toutes les générations. L'Église, les croyants sincères ont attendu, souvent très longtemps, et de génération en génération, depuis 2000 ans, l'Église attend la consolation d'Israël, de l'Israël de Dieu, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Alors persévérons ensemble, je vis personnellement, je pense pas, c'est pas parce que je suis pasteur, c'est que ça n'a rien à voir, je le vis en tant que croyant. Je vis l'Église comme une gigantesque aventure humaine. C'est comme si on avait pris un bateau, là, un voilier, et puis on est en pleine traversée de l'Atlantique, et il y a de tout, quoi. Il y a des tempêtes, il y a des courants, il y a des pirates, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Voilà, c'est. Et nous attendons ensemble. Là, nous persévérons ensemble dans une attente qui n'est pas passive, mais qui est joyeuse et qui est active. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de recevoir de Dieu la confirmation des promesses qu'il vous a faites, d'attendre non pas dans l'amertume, dans la lassitude, mais de manière joyeuse, dynamique. C'est vrai pour chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre Église. Amen. Amen. Seigneur, te bénissons parce que tu es celui qui nous a parlé. Si on est là, c'est qu'un jour tu nous as parlé, tu nous as tiré de notre petit itinéraire sans but, sans direction. Tu as attiré notre attention sur ton existence, sur ce que tu nous proposais. Tu nous as tiré de notre péché, de nos mauvaises voies. Tu nous as mis sur ta voie à toi. Et Seigneur Jésus-Christ, nous voulons marcher à ta suite et participer, prendre part à ton attente. Toi-même, il nous est dit que tu attends, assis dans les lieux célestes, que tous tes ennemis soient mis sous tes pieds. Et nous voulons nous-mêmes participer à cette attente, parfois peut-être difficile, longue, dure, mais nous voulons attendre, Seigneur. Nous attendons chacun pour notre part diverses bénédictions et nous attendons en tant qu'Église la révélation des Fils de Dieu. Je te demande de nous bénir individuellement, Seigneur, chacun pour nos besoins spécifiques et de nous bénir ensemble en tant que croyants pour que nous continuions chacun dans le terrain où tu nous as placés, à porter haut le flambeau de l'Évangile, à persévérer, à bénir, en particulier à bénir nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui voudraient nous voir nous taire, ceux qui voudraient voir le message de l'Évangile mis sous le boisseau. Nous attendons la révélation de l'Israël de Dieu et nous comptons ensemble avancer pour faire connaître et manifester la gloire de ton royaume. Bénis chacun de nous, Seigneur, et bénis cette Église. Au nom de Jésus. Amen.